Et dans le journal des sciences du jour, une étude parue dans la revue Nature Energy, de nouvelles cellules solaires organiques optimisées qui convertissent la lumière artificielle en électricité.
Et cette innovation technologique est menée par des chercheurs suédois et chinois. Les cellules solaires organiques sont minces, flexibles, légères, bon marché, mais elles sont plutôt connues pour leur manque d'efficacité. Ici, des nouveaux panneaux photovoltaïques ont été créés. Deux prototypes, un de 1 cm² et l'autre de 4 cm². Ils ont été exposés à une source lumineuse artificielle, comme on en trouve chez soi. C'est ce qu'on appelle les cellules indoor. Les panneaux ont converti 26,1% de l'énergie lumineuse en électricité. Alors c'est une puissance de production encore très faible, mais ces nouvelles cellules solaires organiques peuvent être encore optimisées, dit l'étude. Guillaume Wantz est chercheur CNRS au laboratoire IMS de l'intégration du matériau au système. Il trouve ces travaux très prometteurs.
Comment est-ce qu'on fabrique une meilleure cellule que celle qui existe aujourd'hui? Eh bien, on change les matériaux qui la composent. Il faut savoir qu'une cellule solaire organique, c'est un sandwich, c'est comme un hamburger où on a des électrodes de chaque côté, donc les tranches de pain. Vous avez un steak au milieu, c'est le semi-conducteur ou la couche active. Et vous avez aussi des couches interfaciales. Et en travaillant sur l'architecture des composants, le choix des matériaux pour chacune de ces couches, et en travaillant sur la chimie de ces matériaux, en particulier la couche active, en inventant de nouvelles molécules pi-conjuguées semi-conductrices, on arrive à améliorer les performances. Alors c'est un peu ce que fait ce groupe chinois. Il nous amène ici des molécules qui sont, pour une des deux en tout cas, qui est nouvelle, et qui arrive à fabriquer une cellule solaire. Cette cellule solaire qu'il publie aujourd'hui là dans Nature Energy, fonctionne très bien lorsqu'elle est utilisée en indoor. Et quand on veut utiliser un dispositif indoor, et bien ça, on change les choses, hein, parce que la lumière indoor n'est pas la même. La répartition spectrale de cette lumière indoor, elle est différente de celle du soleil. Et nos matériaux, ils doivent être photosensibles, ils doivent être capables d'absorber les photons. Et c'est pas la même molécule qui va absorber un rayonnement qui soit fluorescent ou LED. Ce que je trouvais très intéressant, c'est tout l'aspect modélisation où il nous montre que demain, on va pouvoir encore être meilleur et on va pouvoir atteindre des rendements d'efficacité qui frôlent les 50% à 1000 lux. Et ça, c'est quand même assez prometteur. Ça veut dire que, en gros, la moitié de la lumière de votre bureau pourra être transformée en électricité par un dispositif qui sera collé sur votre téléphone ou sur votre habillage, sur les murs, sur les tables, etc.
Voilà, et comme d'habitude, hein, le lien vers l'étude de Nature Energy, ainsi que le lien vers toutes les études qui seront mentionnées, ainsi que plein d'autres sources de renseignements au cours de cette émission, c'est à retrouver en vous abonnant à notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Santé publique France a annoncé hier que le nombre de nouveaux cas de diabète ralentit pour la première fois en France.
On est passé de 11 personnes pour 1000 en 2010 à 9,7 personnes pour 1000 en 2017. Depuis longtemps, le nombre de diagnostics au diabète de type 2 ne cessait d'augmenter en France. 5% de la population est diabétique. Santé publique France n'explique pas les raisons de cette courbe descendante. D'autant plus que d'autres études parallèles montrent une augmentation du surpoids très impliquée dans l'épidémie du diabète. L'organisme encourage à maintenir les efforts de prévention et de dépistage pour confirmer et amplifier cette tendance.
Contrairement aux idées reçues aux États-Unis, les gens sont plutôt favorables à une taxe carbone à condition qu'elle soit bien utilisée.
C'est ce que révèle une enquête parue dans la revue Science Advance, une étude menée par l'Institut fédéral de technologie de Zurich sur 3000 Américains. Elle montre que les projets de taxe carbone manquent de quelques détails clés pour les rendre réalisables. Taxer les entreprises qui exploitent les énergies fossiles, avec le risque pour les consommateurs d'une hausse des prix, c'est une idée qui est majoritairement perçue, sous deux conditions. Soit les revenus de cette taxe sont réinvestis dans l'énergie renouvelable, soit ces revenus sont redistribués à la population.
Et enfin, dans la revue Nature hier, les bébés qui sont nés par césarienne n'ont pas le même microbiote que ceux qui sont nés par voie naturelle.
Et des chercheurs anglais ont analysé 1679 échantillons de microbiote intestinal de plus de 500 bébés à différents moments de leur développement, jusqu'alors 1 an. On observe que les bébés nés par voie basse héritent des bactéries vaginales et fécales de leur mère, des bactéries clés pour leur développement, tandis que les bébés nés par césarienne héritent, eux, des bactéries de l'hôpital. Mais alors attention, ces différences disparaissent rapidement lorsqu'ils ont entre 6 et 9 mois. On ne peut donc pas dire s'il y a des conséquences à long terme sur la santé.